Donc, on va terminer notre la leçon sur la dépression des chrétiens, les causes. Donc, on avait vu quelques causes dans les leçons précédentes. On va les réviser très, très rapidement, les causes. Donc, la première, on avait cinq déclencheurs qu'on appelle de la dépression. La première, c'était vraiment le stress. Et dans le stress, il y avait comme deux divisions. Il y avait les événements de notre vie. On en connaît actuellement des personnes qui vivent des choses difficiles. Mais c'est vrai que s'il n'arriverait un autre au même moment, des fois, c'est assez pour nous débalancer. Alors, ça, c'est les événements de notre vie qui sont souffrants. On en a tous, on en traverse tous. Et il y avait aussi notre style de vie. Le style de vie, c'est-à-dire les choix qu'on fait dans la vie, le nombre d'heures qu'on travaille, le nombre d'heures qu'on s'accorde dans le sommeil, le nombre de notre alimentation, l'exercice physique, etc. Tous ces facteurs-là combinés peuvent finir par nous atteindre sérieusement. Et on avait regardé que le deuxième déclencheur, c'était ce qu'on appelle les faux modèles de pensée. Dans une leçon précédente, on avait regardé qu'il y en avait au moins 10. Et tous les conseillers, ceux qui s'occupent de dépression, disent tous qu'une personne qui fait une dépression devrait passer par ce questionnement-là de regarder les différentes choses qui se passent dans ta vie pour regarder s'il y a des affaires que tu pourrais améliorer. Il y en a sûrement, il y en a toujours, mais les spécialistes disent qu'on se devrait de le faire de façon systématique. Et on avait vu que la troisième, bien entendu, c'est le péché. On avait vu des circonstances dans la Bible, des personnages qui ont été découragés, et pas des moindres non plus. Si on parle de Moïse, on parle d'Ésaïe, et il y en a d'autres, là. On les reprendra pas tous ce soir, là. Mais des fois, c'est le péché des autres, comme dans le cas de Moïse, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est découragé? C'est le peuple. Et le peuple était tellement dur de comprendre, qu'on dirait obstiné, désobéissant, que ça finit par l'affecter au point que il a manqué de patience, comme on dit. Et ça lui a coûté qu'il n'a pas rentré dans la terre promise. À quelque part, de David, quand il a péché avec Bathsheba, etc. Alors, les péchés, souvent, ça l'amène des états de dépression. Alors, on avait regardé un petit peu ça la semaine dernière. Et on était rendu à peu près là. On était rendu au quatrième déclencheur. Donc, le quatrième déclencheur, c'est vraiment les questions physiques. Certaines maladies physiques, des débalancements au niveau de la chimie du cerveau, ça peut être toutes sortes de choses, mais de nature physique. Et des fois, moi, ce que je trouve compliqué dans la question, c'est qu'on ne sait jamais si c'est une combinaison de plusieurs de ces facteurs-là, ce qui rend la chose, même les grands spécialistes trouvent ça difficile, imaginez-vous. Nous, qui avons une petite formation de base, là, on comprend pas, là. C'est difficile à comprendre. Donc, l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle « Christian Get Depressed Too ». Les chrétiens peuvent aussi être déprimés. David Murray. Il affirme qu'il était heureux de constater que depuis quelques années, dans le mouvement qu'on appelle du « counseling biblique américain », ils ont une grosse influence, les Américains, à travers le monde entier, hein. Quand tu regardes l'ensemble de livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est surtout les Américains, les Anglais aussi, mais les Américains beaucoup. Alors, ils ont une énorme influence. À un moment donné, eux, ils avaient mis beaucoup l'accent sur les causes qu'eux considéraient qui étaient importantes pour les dépressions. Ils considéraient toujours que ça a un lien avec le péché. Je crois qu'ils ont raison. Oui, ça a un lien, mais des fois, il n'a pas de lien avec le péché. Je me souviendrai toujours du pasteur que j'ai connu quand j'étais à l'école biblique. Il m'a raconté, écoute, je ne peux pas dire qu'il est menteur, là. Il disait la vérité. À un moment donné, je suis arrivé un dimanche matin à l'église, puis ça a tombé, là, c'est comme un coup sec, là, je filais down comme... Et au début, tout le monde se sont mis après, puis ils se sont questionnés, coudon, y a-tu quelque chose qui vit en secret, puis qu'il n'a pas partagé? C'était pas ça du tout. J'avais rien dans ma vie qui fonctionnait pas bien. Ma vie de prière était là. Toute la vie avec les Écritures était là. Puis à un moment donné, oups, il a consulté un médecin. Puis ils se sont rendus compte que c'est un débalancement chimique au niveau du cerveau. Et certains médicaments l'ont replacé. Alors, faut pas... Puis il nous avertissait parce qu'il était notre professeur. Il nous enseignait le grec dans le temps, puis il disait jugez pas trop vite. Il nous disait ça comme on était en formation. Il disait jugez jamais ces choses-là trop vite. Parce que si vous jugez trop vite, vous allez faire des gaffes monumentales. Si tu es en train de dire à quelqu'un que sa vie spirituelle va bien, puis du jour au lendemain, il tombe, puis tu lui dis tu veux lui faire laisser sentir, puis le culpabiliser, lui dire que la cause, c'est le péché, tu es loin d'être aidant, là. Fait que moi, ça m'a resté de cette expérience-là. Alors, il dit qu'il est content de constater que le mouvement de counseling américain, il y a des écoles, il y a des cours qui se donnent, ils ont commencé à reconnaître que oui, c'est possible qu'il y ait des causes physiques, que c'est pas toujours relié avec les péchés. Il y a toujours, jusqu'à un certain point, un lien relié avec les péchés, là, mais c'est pas toujours. Alors, le péché, bien entendu, le péché personnel peut et souvent joue un rôle pour causer l'anxiété de la dépression. Cependant, certaines maladies et certains handicaps sont le résultat que nous vivons dans un monde déchu, avec un corps et un esprit déchu. Alors, de la même manière que nos corps peuvent être affectés par des problèmes mécaniques, chimiques, électriques, dans nos cœurs, dans nos poumons, dans nos foies, dans nos pancréas, dans nos yeux et dans d'autres parties du corps, il en est de même dans notre cerveau. Semble-t-il que ceux qui étudient la médecine, j'avais déjà lu ça dans un livre d'anatomie et physiologie, ils disent que le système nerveux, tu sais, je pense que le corps, je ne me trompe pas, si je me souviens bien, il me semble qu'il y avait 12 systèmes. Système circulatoire, système digestif, il y en a 12. Apparemment que le plus difficile à étudier, c'est le système nerveux. Tout ce qui va au cerveau, tous les cerveaux, tout ce qui passe par la colonne vertébrale, apparemment que c'est d'une complexité, là. Les gens qui deviennent des neurologues, là, ils pourraient nous en parler beaucoup plus. Ils peuvent étudier ça 10 ans, 15 ans, puis ils ne savent pas tout encore. Alors, c'est d'une grande, grande complexité. Alors, s'il peut y avoir des problèmes mécaniques, chimiques, dans nos membres, corps, cœur, et poumons, bien sûr, le cerveau, lui aussi, il fait partie de l'être humain. Plusieurs d'entre nous ont des amis ou des bien-aimés qui ont eu des blessures au cerveau, des saignements ou des tumeurs qui ont occasionné des changements perturbants de la personnalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'humoriste à la télévision, je ne me souviens plus de son nom, il parle de son frère qui a eu un accident. Et son frère est devenu un peu légume, et il dit n'importe quoi, il dit tout ce qu'il pense, mais tout haut, sans aucune restriction mentale. Il peut dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Puis là, il nous racontait ça, puis il racontait le côté souffrant qu'il y a là-dedans. Pour lui, premièrement, mais il se fait sacrer des volées. Il peut dire n'importe quoi, il racontait ça. Mais c'est un humoriste, puis il réussit à emmener le monde aux larmes aussi, parce qu'on se rend compte que des fois, un accident peut créer un problème tel au cerveau que toute ta personnalité est changée, toute ta façon de voir les choses. Et aussi, des nutritionnistes ont démontré comment certains aliments peuvent affecter nos humeurs, nos pensées, nos sentiments. Alors, la science de la nutrition, ça aussi, c'est très, très, très développé. Et quelqu'un qui se nourrit très mal, qui se bourre de sucre et d'autres choses, là, qui se nourrit très mal, ça peut finir par avoir affecté sa santé psychologique aussi. Alors, nos émotions peuvent aussi être affectées par plusieurs autres facteurs, comme l'épuisement, le diabète, le manque d'exercice, le dysfonctionnement hormonal. Des fois, tu vas voir ton médecin, puis des fois, il donne les résultats, là, puis il dit sur telle glande, tu es sur le bord d'avoir des problèmes. Elle m'a déjà dit ça moi-même. Il me nomme la glande, là, puis il dit d'après tes résultats, tu es presque sur le bord d'avoir des problèmes. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi et tout cela, mais on sait que. Il y a des désordres d'ordre glandulaire, l'hypertension artérielle et bien d'autres facteurs encore. Le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de l'ensemble de notre corps. Et bien sûr, c'est celui qui était le plus affecté par les résultats de la chute et de la malédiction divine sur nos corps. Toute notre façon d'être est affectée. Notre raisonnement, tout, quelque part. Alors, nous devons éviter le raisonnement qu'ont eu les apôtres en croyant qu'une personne était aveugle à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents. Et vous, quand ils sont arrivés avec ça, on a ça dans Jean chapitre 9, versets 2 et 3. Ses disciples lui demandèrent, ils voient un aveugle, puis là, ils disent, ben là, s'il est aveugle, c'est parce qu'il a péché, c'est pas lui, c'est ses parents. Alors, on voit que ce n'est pas nouveau comme façon de procéder, d'accuser. Alors, et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché? Celui-ci ou ses parents? Qu'il soit né aveugle. Ça prenait un coupable, il voulait un coupable. Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous apprend que dans le fond, tout a une origine divine. Alors, le même auteur, David Murray, raconte qu'il était pasteur, lui, dans les Highlands de l'Écosse. Les Highlands de l'Écosse, c'est les régions hautes de l'Écosse. Il semble que le taux de dépression est le plus élevé dans ce pays-là de tout le monde entier. Alors, de l'Occident, du moins. Il mentionne que dans sa jeunesse zélée, bien entendu, quand tu es jeune pasteur, tu as 20 ans, 22 ans, des fois 25 ans, 30 ans, tu essaies d'aider ces gens-là. Et si tu as lu, toi, dans tout ce qu'on t'a démontré, enseigné sur la dépression, que c'est la cause du péché, bien entendu, quand tu vas voir les gens, mais tu es là, puis tu essaies de trouver quel péché qu'il y a dans leur vie qui leur fait vivre ça. Alors, c'est ça qu'il dit. J'étais zélé, puis j'essayais de relier sa condition à un péché dans sa vie. Alors, il dit, il cherchait les causes et dépressions de ses paroissiens dans le péché. Une longue expérience et l'observation lui ont montré que des dépressions arrivait à des gens qu'il connaissait très bien et que ceux-ci étaient souvent des modèles de chrétiens. Ça, c'est le temps qui a appris ça, là. Force d'aller voir, vérifier, c'est-tu un péché, ça part se rendre compte, non, c'est pas un péché. Qu'est-ce qu'il y a de bas, c'est pas un péché? Alors là, il se rend compte que c'est plus grand que ce qu'il croyait au départ. Alors, il en est venu à reconnaître que c'était souvent le fruit de cerveau rendu malade par les effets de très longs mois d'hiver avec de très courtes périodes d'ensoleillement. Il semble que c'est le cas. Puis, dans le Grand Nord aussi, je pense il y en a plusieurs qui vivent ça aussi, où il y a des journées très courtes en termes d'ensoleillement et apparemment qu'ils deviennent hyper angoissés, ils ont beaucoup de difficultés. Alors, il y a des fois, comme dans ce pays-là, pourquoi c'est le plus haut taux de dépression au monde? L'Écosse, j'en ai aucune idée, mais il semble que ça peut être relié avec la géographie, la température et tout ça. Alors, il suggère au pasteur de ne pas adopter l'attitude de croire que les causes de l'impression sont automatiquement à cause du péché, jusqu'à preuve du contraire. Il dit, associe pas nécessairement que c'est ça, jusqu'à temps que tu puisses démontrer que c'est ça. Alors, n'endommageons pas potentiellement de très précieux croyants en Jésus-Christ en les affaiblissant au lieu de les aider et de les encourager lorsqu'ils traversent des moments de grande faiblesse. Ça, pour moi, c'est une leçon importante. Et je pense que la série, je me suis rendu compte, il y en a un qui est venu ici, l'Européen, bien, il dit, tu peux être sûr, je vais tout aller écouter tes émissions. Il dit, on vit ça en Europe, tout le monde vit ça un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que comme chrétiens, les pasteurs, les diacres, on ne sait pas comment trop agir avec ça. On a besoin d'une certaine formation de base, au moins pour ne pas faire des bêtises monumentales en essayant d'aider les personnes. Et le cinquième déclencheur, là, j'étais un petit peu surpris quand je l'ai lu, parce qu'il mentionne, et ça c'est important, la souveraineté divine, cinquième déclencheur. Il est difficile d'accepter que la cause ultime de la dépression soit Dieu lui-même. Nous devons nous rappeler que le Seigneur n'éprouve jamais de façon arbitraire ou de façon sadique. Les épreuves qu'il envoie sont toujours aimantes, sages, miséricordieuses, et cela malgré notre incompréhension passagère. C'est sûr que quand ça nous tombe dessus, selon l'expression que j'ai souvent entendue, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Tu sais, on cherche à se trouver, soit c'est chez nous qui est coupable, soit notre entourage. « Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons, tu ne comprends plus rien. » Alors, quelque part. L'exemple classique de cette vérité-là est celle de Job. Ça, on ne doit jamais... Moi, le livre de Job, je l'ai prêché en temps que j'étais à Rouyn-Noranda. Ça va paraître une cinquantaine de leçons, si je me souviens bien. C'est un livre extrêmement riche, extrêmement intéressant sur ce sujet-là. Dieu a dit, est-ce qu'un de nous dans la salle ici, Dieu pourrait dire de lui qu'il est intègre et juste dans toutes ses voies? C'est un témoignage pas d'homme, un témoignage divin. Dieu a dit ça de Job. Pourtant, il en a envoyé une solide. Pas à peu près, là. La plupart d'entre nous ne connaîtront pas des épreuves aussi importantes et aussi profondes que ça. Pourtant, c'est bien Dieu qui l'envoyait, lui-même. Alors, on lit par exemple un autre exemple, celui du roi Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour l'informer du prodige qui était arrivé dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Quand Dieu nous abandonne pour nous éprouver, pour savoir ce qu'on a dans le cœur, d'après vous, c'est quoi le problème? C'est quoi la raison? Il veut qu'on voit à quel point on est pourri. Il veut qu'on voit à quel point la profondeur du péché existe dans nos vies. Et il nous fait vivre cela parce que c'est ça que ça fait. Dieu dit, en parlant d'Ézéchias, puis quand vous lisez Ézéchias, il semble que ça a été un des meilleurs rois d'Israël. Un des meilleurs rois d'Israël. Il a fait quelques bêtises, là, mais en général, il marchait droit. Il avait une crainte de Dieu. Il enlevait l'idolâtrie du peuple dans sa vie. Et Dieu lui envoie ça. Là. C'est dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Pas Dieu de connaître. Ézéchias de connaître qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Ça nous amène là. Hein? Dieu n'abandonne jamais les siens, même si cela peut paraître ainsi à nos yeux. Il arrive que nous prenions la présence de Dieu dans nos vies comme quelque chose d'acquis. Le Seigneur peut, pour un temps, sagement et proportionnellement nous retirer le sens de sa faveur. Autrement dit, ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. C'est comme si on serait persuadé que Dieu nous a oubliés, qu'il ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés. C'est lourd comme sentiment. Tu es sûr. Puis toi, dans ta tête, tu es sûr. Dieu m'a abandonné. Là, tu te sens vraiment... là. Alors, nous retirer le sens de sa faveur, de sa présence et de sa protection. Cela a pour but de nous rappeler... Ce que nous serions sans lui, et de nous amener à une plus grande appréciation de ses grâces et à augmenter notre gratitude envers lui. Concluons avec cette citation du célèbre médecin, le pasteur chrétien Martin Lloyd-Jones. Il était à la fois médecin, il n'était pas un médecin n'importe quoi, là. Martin Lloyd-Jones, s'il ne serait pas devenu pasteur, il était un des grands médecins d'Angleterre. Il aurait pu être un médecin pour la famille royale. C'était pas un deux de pique, là, Martin Lloyd-Jones. Voici ce qu'il dit. Il dit, maintenant nous nous tournons pour considérer les ruses du diable, comme elles peuvent être vues dans la confusion qu'ils créent dans les domaines physiques, psychologiques et spirituels. Le sujet en est un des plus pratiques que nous pouvons considérer. Nous sommes d'étranges créatures, composées d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ceux-ci sont interreliés et agissent les uns sur les autres. Beaucoup de nos problèmes dans cette vie sont rattachés à ce fait et à notre échec de réaliser la place, la fonction et la sphère de chacun dans tous les domaines de notre vie. Si on appelle les maladies psychosomatiques, soma, ça veut dire... Alors, le corps interagit sur l'âme, l'âme interagit sur l'esprit, et c'est d'une complexité, c'est ça qui rend la chose difficile. Alors, bien souvent, moi, je pense que pour les dépressions chez les chrétiens, moi, je pense que ça prend à la fois des pasteurs pour s'occuper de voir s'il n'y a pas quelque chose vraiment qui ne fonctionne pas dans sa vie spirituelle. Ça prend aussi quelqu'un qui est connaissant dans la science médicale. Moi, je pense que ça prend une équipe pour aider ces gens-là. Et la personne elle-même, j'ai tout fait la leçon prochaine sur les là, on regarde les causes. Là, ça va être les remèdes. L'autre leçon, ça va être les remèdes. Et c'est très intéressant de regarder l'ensemble des choses qui sont proposées par les spécialistes, à la fois les pasteurs, parce qu'à l'intérieur de tout ça, ce gars-là, il s'est servi de l'expérience de médecin, il s'est servi de l'expérience de pasteur, il s'est servi de l'ensemble de tous ceux qui en ont fait un peu une spécialité. Alors, quelque part, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'eux considèrent comme étant des remèdes. Et ce qui m'a frappé, en tout cas, je ne commencerai pas la leçon la semaine prochaine, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il commence à dire, il cite les Écritures où le Seigneur dit à quelqu'un qui est malade, « Veux-tu être guéri? » Parce que le problème, souvent, avec les dépressions, c'est que les personnes en viennent à un point où ils n'ont plus aucun espoir, ils abandonnent toute tentative de s'en sortir. À quelque part, lui, il propose des moyens concrets. Et c'est pour ça que je dis que c'est rare qu'une personne s'en sorte toute seule. Elle s'en sort avec l'aide de médecins, avec l'aide de proches, avec l'aide de pasteurs ou de psychologues chrétiens qui viennent, à un moment donné, tout mettre leurs efforts ensemble. Et souvent, les personnes, comme on mentionnait au début, faire un examen de soi dans tous les domaines qu'on a parlé. On a parlé qu'il y en avait plusieurs. La situation générale de ta vie, tes faux patterns de pensée. Ben, je disais à Gervais ce matin qu'une personne dans l'Assemblée qui a acheté le manuel que j'avais proposé, qui nous aide à faire cet exercice-là, mais tout est écrit, tout est préparé. Puis moi, on est, quand je l'ai reçu, j'en ai acheté une copie pour elle, mais je vais en acheter une copie pour moi aussi, parce qu'il donne toute la façon dont quelqu'un devrait s'y prendre pour faire cet exercice-là. Regardez l'ensemble de ta situation générale de ta vie. Regardez tes patterns de pensée. Regardez ta vie spirituelle. Et l'ensemble, ben, c'est une brique, là. Je me suis mis à lire ça. J'ai dit, hey, ça a l'air bien fait, pas à peu près, ça. Tu vois que ça a été travaillé. Alors, quelque part, je pense qu'on a besoin d'outils. Même comme nous, comme chrétiens, pour aider quelqu'un. Des fois, juste être capable de dire à quelqu'un, il existe des moyens de s'en sortir, pour qu'il y ait une petite lumière qui s'allume quelque part. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre, que la première chose qu'il dit, quand on parle des remèdes, il amène le verset où Jésus dit « Veux-tu être guéri? » Quelque part, il dit « Oh, il y a de quoi d'important là. C'est important. » Alors, on va faire quelques applications, on va terminer là-dessus. La première application, « Implorons de la sagesse de la part de Dieu » pour être capable de distinguer entre la dépression réactive et la dépression endogène. On a parlé réactive, c'était les événements, les styles de vie, tandis qu'endogène, c'est plus le côté physique. Si on est capable de le faire de façon naturelle, moi, je ne pense pas qu'on l'a de façon naturelle. Il faut prier. Le Seigneur il dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez-la, et elle vous sera donnée. On doute-tu de ça? On le sait qu'on ne l'a pas la sagesse, mais il faut la demander. Il faut la demander. Surtout, je dirais, s'il y a quelqu'un de déprimé dans ton entourage, de la demander tous les jours. Seigneur, donne-moi de la sagesse, je ne comprends rien dedans. Aide-moi à ce que je sois un aidant, une aidante, et non pas une personne qui va nuire. Deuxième application. Ne manquons pas d'étudier davantage ce complexe sujet. Et prions pour que nous utilisions les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour reconnaître les cinq déclencheurs. Le stress, les faux modèles ou patterns de pensée, le péché, la maladie et la souveraineté divine. On oublie souvent celle-là. Souvent, je suis à peu près certain que si tu regardes dans les manuels qui parlent de dépression physique du monde, on ne doit jamais mentionner même cela. Puis là, on parle de dépression chez les chrétiens. À quelque part, il faut que tu arrives à percevoir que c'est possiblement ça. C'est Dieu, un peu comme Ézéchias tout à l'heure, Dieu permet que tu te sentes abandonné pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur, pour que tu dépendes de plus en plus de lui. Ça, on l'oublie, mais nous, on est des chrétiens. Là. À quelque part, on sait que les Écritures ne nous mentent pas, et les Écritures, Dieu le fait. Donc, à quelque part, qu'on connaisse ces choses-là, la souveraineté divine n'est pas... Alors, bien sûr, on va avoir besoin, pour faire ces choses-là, avec l'entourage avec qui on peut aider, et jamais c'est nous qui traversons la dépression, on va avoir besoin d'humilité. Ça prend de l'humilité pour faire ça. Dire examiner ma vie, ça se peut-tu que je sois tout croche dans toutes sortes de domaines. Puis c'est pas vraiment plaisant regarder l'ensemble de tout ce qui va pas dans ta vie. Parce que tu te rends compte que bien souvent, c'est toi qui as creusé. Pas nécessairement complètement, là, mais tu es en partie toi-même le responsable. Donc, tu vas avoir besoin d'humilité, tu vas avoir besoin de courage, tu vas avoir besoin d'acceptation. Puis tu vas avoir besoin d'une confiance inébranlable en Dieu pour t'en sortir. Je me souviens d'avoir déjà vu sur une revue quelqu'un qui était une vedette à la télévision. Maintenant, j'arrive, tu sais, des fois, on arrive à la caisse des épiceries où on voit des photos. Je nommerai pas son nom, là. Je regarde la face. Un gars connu. Je regarde la face, les yeux, les poches en dessous des yeux. Il avait l'air d'avoir vieilli de 25 ans. Il était en train de vivre une dépression extrême, énorme. Là, il en est sorti, je l'ai vu. Mais il reste que... Il l'a travaillé à travers quelques années, 2-3 ans, je pense, qu'il était là-dedans. Ça a été dur. Alors, tu as besoin d'acceptation, puis tu as besoin, bien entendu, pour un chrétien, on a une arme qu'un païen n'a pas. Parce que le païen, certains, il y en a qui disent croire en Dieu, mais la plupart, beaucoup, c'est faible. Nous, on a une croyance que Dieu est capable de nous en sortir, et il va le faire aussi, à son heure et à sa manière. Troisième, sachons et acceptons qu'il ne nous est pas toujours possible de lire et de comprendre les plans de Dieu sur nos vies. Ça, c'est le troisième point de la souveraineté. Des fois, Dieu nous envoie des choses, on ne peut pas nécessairement comprendre pourquoi il le fait, mais il y a toujours un but, parce que toute chose... Tu sais, des fois, on lit un verset, comme Romains 8, 28, hein, on pense qu'on comprend ce que ça veut dire. On va le dire, là. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Comprenez-vous? On comprend, oui, on comprend le principe. Mais c'est quand ça arrive dans la vie de tous les jours, quelque chose de lourd. Et là, que tu sois capable de voir la main de Dieu à l'intérieur de ton événement, à l'intérieur de ce que tu vis qui est difficile, qui est douloureux, qui fait mal, comme on dit. À quelque part, ça demande vraiment, là, c'est la foi qui nous fait comprendre ça. Mais c'est peut-être pas toujours le bon moment de dire à quelqu'un qui vient de dépression, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a des moments de dire des choses, des fois c'est mieux de dire après qu'elle a fini, que de dire pendant qu'elle est en train de le vivre. Alors il y a des fois, c'est pour ça qu'on a besoin de sagesse, on a besoin de sagesse pour dire les bonnes choses au bon moment. Alors que le Seigneur soit adoré, béni et loué, pour sa sagesse, son amour, sa miséricorde et sa direction dans nos vies. Et cela, dans les moments agréables et dans les moments d'épreuve dans nos vies. Louez le Seigneur. Amen. Amen.